Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Bonjour à tous, nous voici dans notre émission avec vous, Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Alexandra Guerre, bonjour.
Bonjour.
Cette émission avec notre évêque sur Radio Lapourdie et Radio Présence, et nous vous souhaitons à tous nos auditeurs une très bonne année.
C'est qu'à notre évêque.
Voilà, on va commencer.
Merci, Milishker.
Dans une première partie, déjà de parler des vœux, puisque Monseigneur Ayé, vous avez présenté vos vœux au clergé, c'était vendredi dernier, vendredi 6 janvier, une petite centaine de prêtres du diocèse qui étaient présents. Alors bien sûr, c'est vrai, l'actualité, vous avez évoqué ce malaise qui est ressenti en ce moment par certains d'entre eux, que la presse a largement relayé, la presse a même parlé d'une fronde de 60 prêtres. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où en est cette situation ? Qu'est-ce que vous avez dit à vos prêtres, à vos fils, puisque vous êtes adressé à eux comme un père à ses fils ? Et puis, peut-être, est-ce que des actions vont être menées concrètement pour essayer d'apaiser ce malaise ?
Voilà, alors donc c'était important cette rencontre avec le clergé, après évidemment une actualité brûlante, à tous les sens du mot d'ailleurs cette année, que cet exercice que j'ai institué depuis que je suis arrivé, des vœux au clergé, au début de l'année. Et donc comme chaque année, je réunis les prêtres, j'invite les prêtres à venir à Salis de Béarn pour une messe d'action de grâce, et puis commencer l'année ensemble, en recentrant effectivement notre vie sacerdotale sur le Christ, et notre communion sur l'Eucharistie. Et puis après, c'est l'occasion pour moi de m'adresser aux prêtres, et comme je l'ai dit cette année un peu plus, comme un père, comme un frère et comme un ami, ces trois expressions qui caractérisent la relation de l'évêque avec les prêtres. Puisqu'il s'agissait quand même de ce malaise ressenti par certains prêtres avec certains groupes de laïcs, dont la presse s'est fait l'écho un peu complaisant et avec les outrances que l'on sait, il était important que j'aie une parole aussi. J'avais évidemment écrit déjà une lettre à l'ensemble des diocésains le 8 décembre dernier, et c'est important que je puisse dire où on en était. On en était au fait que le dialogue était instauré déjà depuis un certain temps, puisque le 23 septembre, recevant les quatre délégués de ce groupe dit de Mourinx, j'avais pris l'engagement que les préoccupations dont il nous avait fait part seraient ressaisies au Conseil presbytéral, qui était en train d'être, comme vous le savez, renouvelé. Et le Conseil presbytéral, dans sa première rencontre, le Conseil épiscopal, après cette première séance du Conseil presbytéral, et le bureau du Conseil presbytéral, nouvellement élu, ont pris les choses à bras-le-corps et on a mis en place une stratégie. Voilà. Une stratégie qui consistera à faire que cette question de la communion, parasitée en effet par ce malaise, qui a pris de l'ampleur, en tout cas qui a occupé l'espace sonore et l'espace médiatique de ces dernières semaines, soit repris par l'ensemble du presbytérium, dont l'instance de communion légitime est précisément le Conseil presbytéral. Donc nous avons pensé nous inspirer de la pédagogie de Diaconia 2013, qui reste évidemment dans tous nos esprits, où il s'agissait de repérer dans notre vie des fragilités, des souffrances, mais aussi des merveilles. Et pour ne pas rester dans un tableau noir qui finit par nous obséder tous et finir par nous parasiter même dans nos élans, nous avons proposé aux prêtres, à partir de ce rapport de Mourinx, mais aussi à partir de la lettre que j'ai écrite, et puis sans doute de mon discours des vœux du 6 janvier, de repérer dans la vie du diocèse, sur 5 points listés par ces prêtres, la communion dans le diocèse, les relations prêtre-évêque, la responsabilité des fidèles laïcs, les rapports de l'Église et du monde, et enfin des questions relatives à la gestion financière dans le diocèse, de repérer sur ces 5 points, dans la vie du diocèse, des fragilités, des souffrances et des merveilles, et puis de faire des propositions d'amélioration possible de notre communion missionnaire, parce que c'est évidemment en vue de la mission que nous avons à grandir toujours dans la communion. Et ce petit travail se fera dans un premier temps dans les réunions doyennées, pour que tous les prêtres puissent se parler. Parce que vous voyez, je crois que le dialogue, ce n'est pas seulement le dialogue de l'évêque avec les prêtres, c'est le dialogue des prêtres entre eux. Et je m'accorde à penser que ce dialogue n'existe pas suffisamment et que tout le monde n'y met pas du sien. D'ailleurs, pour que, pendant 3 ans, un groupe de prêtres se soit réuni pour préparer un rapport sans lien avec les autres, c'était aussi une manière de dire que ce dialogue n'est pas suffisamment honoré entre les prêtres. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, fort de ces compte rendu de réunion de doyenné, le bureau du conseil, organisera, avec un document, à partir d'un document de synthèse, un débat qui se fera à la séance du 3 mars du prochain conseil présbytéral, donc avec 4 groupes de parole, où on invitera à participer les 4 délégués de ce groupe de Mourinx, un par groupe de parole, et qui me feront des propositions, voilà, d'amélioration de la communion missionnaire au sein du diocèse. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est de ressortir effectivement par le haut.
Et vous n'aviez pas senti quand même qu'il y avait ce malaise avant que ces prêtres vous demandent un rendez-vous ?
Mais j'en entendais parler, hein, par certains bruits de couloir, certains bruissements. Il y a eu des expressions parmi que je retrouve dans le rapport qui ont été exprimées en effet ou formulées au cours du conseil prélatéral auquel on avait aussi donné quelques réponses, hein, bien sûr. Mais ce malaise a grandi tellement dans l'ombre que c'était assez difficile de pouvoir le mesurer effectivement.
Dans la lettre que vous avez écrite le 8 décembre au diocésain, vous dites que ces prêtres ont été conduits par les autorités, pourtant ils ont été reçus par Mgr Ricard.
Alors il faut bien lire le texte que j'ai écrit. J'ai dit qu'ils avaient été éconduits après leur première demande, qui datait du 15 mai. Ensuite, j'ai dit, que si vous suivez bien la chronologie telle que je l'ai écrite, et c'est pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans les médias, en particulier dans les médias basques, et dans l'article de Sud-Ouest du 31 décembre, car j'ai parlé d'être éconduit après la première demande. Pour la deuxième demande, j'ai dit, parce que nous étions le 8 décembre, que le nonce apostolique m'avait à ce jour envoyé sa réponse à la deuxième demande qui était de ne pas désirer les recevoir. Le cardinal Ricard m'en a parlé ensuite et nous avons convenu qu'il les recevrait. Voilà. Mais ça, c'est pas parce que je l'avais pas dit que j'ai menti. Et ça, c'est grave de m'accuser de mensonge flagrant, surtout que quand j'écris le 8 décembre, cette rencontre n'avait pas eu lieu.
Alors, Monseigneur, vous parlez des médias. C'est vrai que les médias ont joué un rôle assez amplificateur dans cette histoire. Vous avez même parlé d'acharnement médiatique. D'ailleurs, ça date de quelques temps pour vous. Finalement, quel est le rôle des journalistes? Qu'est-ce que vous attendez d'eux par rapport à l'Église? Est-ce qu'ils sont censés ne pas se mêler de toutes ces histoires? Ou est-ce qu'il faut quand même qu'ils jouent leur rôle aussi d'informer? Qu'est-ce que vous attendez de cette presse?
Moi, je crois qu'il y a d'abord, c'est pas d'abord de la presse que j'attends quelque chose. C'est de notre propre famille ecclésiale. C'est sûr que s'il y a des problèmes et des difficultés entre nous, c'est entre nous qu'il faut les régler. Il y a des règles évangéliques que j'ai toujours rappelées, que je rappelle, en particulier quand Jésus parle de conflits possibles ou de péchés les uns contre les autres, il y a ce qu'on appelle d'abord la correction fraternelle. La correction fraternelle, elle commence par une rencontre seul à seul. Cette rencontre seul à seul, elle est faite pour gagner son frère et non pas pour le condamner et l'accuser. A priori. Donc il faut déjà bien rétablir les choses. Ensuite, porter sur la place publique des questions qui nous concernent ad intra dans l'Église, même si nous sommes en lien avec le monde, bien sûr, à qui nous avons annoncé l'Évangile, et dont nous sommes solidaires aussi, des angoisses et des détresses, des joies et des espérances, comme nous a rappelé Gaudium et Spes, il reste que pour tout ce qui concerne notre communion fraternelle, notre communion ecclésiale, c'est une chose qui doit rester ad intra. Et je pense d'ailleurs que les prêtres qui ont vu leur rapport imprudemment diffusé sans doute par eux, mais ils n'avaient pas, je pense, la volonté que ça paraisse dans la presse. Et donc je pense que tout le monde était bien d'accord, c'est ce que j'ai senti lorsque nous en avons parlé au conseil presbytéral, et nous en avons parlé aussi avec chacun de ces délégués, que personne n'avait intérêt à ce que la presse s'empare d'une telle question. Parce que vous voyez bien que derrière tout ça, il y a toujours ces péchés que le pape François stigmatise en permanence lorsqu'il parle aux médias, sans langue de buis, en disant que le plus grave péché des médias, c'est la désinformation. Et la désinformation, c'est précisément prendre certains éléments, les grossir, les souligner davantage, et en gras, et finalement ne pas donner une information suffisamment complète pour que les lecteurs puissent se faire une véritable idée.
Alors, du coup, vous souhaitez que la presse ne s'occupe pas de ce genre de choses, mais alors il faut bien qu'il parle de quelque chose aussi.
Oui, c'est sûr. Si c'est pour vendre du papier, à ce moment-là, je vais demander une commission.
Alors, Monseigneur Hayé, lors des vœux, vous avez rappelé ce qu'est le prêtre, le rôle du prêtre, et vous avez invité à former un seul corps dans la diversité, cette diversité qui apparemment est bien manifestée dans notre diocèse, que ce soit au niveau des cultures, mais au niveau aussi peut-être des traditions et des engagements dans la foi catholique. Alors comment arriver à faire finalement l'unité dans la diversité ?
C'est toujours un grand défi, hein. C'est un défi dans une famille, c'est un défi dans une société, quelle qu'elle soit. C'est un défi dans l'Église, ô combien, hein. Je suis parti donc de cette lecture de Paul aux Corinthiens, dans la première épître, au chapitre 12, qui compare en effet l'Église à un corps qui est composé de plusieurs membres, qui n'est pas un seul membre, et que cette diversité, cette complémentarité, cette articulation, eh bien, faisait la richesse de ce corps. Hein. Et c'est toujours ce que nous avons à favoriser au sein de notre diocèse. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de tout le monde, des anciens comme des nouveaux, des prêtres de Mourinx comme de tous les autres prêtres. Hein, tout le monde a sa place, mais toujours selon le don, comme c'est saint Paul qui le précise, parce que le corps est animé par l'Esprit Saint, selon le don de l'Esprit qui est imparti à chacun, selon la responsabilité et la mission qui est confiée à chacun. Et qui est doté de grâce d'État. Tout le monde ne fait pas tout, voyez. C'est pourquoi j'ai précisé que chacun a sa place. Chacun a sa place dans la mission qui lui est confiée. Il y a des instances de consultation, des instances de concertation qui sont prévues par le droit et qui favorisent la communion. Le conseil presbytéral, qui en effet est très représentatif de l'ensemble des prêtres du diocèse qui exercent un ministère chez nous, voyez, mais aussi le conseil pastoral diocésain, hein, mais aussi qui se mettent en place petit à petit, c'est tout à fait logique que ce soit toujours à remettre sur le chantier.
Justement, Monseigneur, dans la seconde partie de cette émission, nous allons avec vous présenter un peu et dire quelles sont les missions de ces différents conseils.
Radio La Pour Dire à TIA, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Hayé, et nous sommes le 10 janvier. Alors, Monseigneur Marc Hayé, pouvez-vous justement nous parler un peu des différents conseils qui vous aide dans votre mission de pasteur du diocèse de Bayonne-Escaré-Oloron, peut-être commencer par justement ce fameux conseil presbytéral que vous avez renouvelé récemment.
Oui, je me suis accordé à travers tout ce malaise tel qu'il a été formulé, en parlant avec le conseil pastoral diocésain précisément, que les fidèles laïcs de notre diocèse, quelquefois même les prêtres, ne sont pas bien au fait, et il doit y avoir un manque de pédagogie, peut-être un manque de communication ad intra, hein, de ma part, et donc c'est une chose qui est à réviser sans doute, qu'il y avait une grande ignorance par rapport au fonctionnement finalement de l'Église, qui n'est pas seulement un fonctionnement d'organigramme, bien sûr, hein, ça paraîtrait assez extérieur et simplement structurel ou fonctionnel, mais le fonctionnement de l'Église précisément, où l'évêque a un pouvoir, alors par analogie avec le pape d'ailleurs, hein, a un pouvoir personnel que l'on dit immédiat et propre. Voilà. Ça veut dire que le pouvoir de l'évêque qui représente le Christ, par une grâce et non pas par un plébiscite des membres de son association, si je puis dire, par une grâce et un appel de Dieu, hein, et de l'Église, eh bien a un pouvoir de rendre présent le Christ pour enseigner la vérité de l'Évangile, pour sanctifier par la célébration des sacrements et pour gouverner la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Pour autant, pour garder ce pouvoir de l'évêque de tout autoritarisme, hein, comme on peut le craindre parfois, il est doté de conseils que lui donne le droit et que lui impose le droit, qui fait que la plupart des grandes décisions qu'il doit prendre, ce qui ne lui empêche pas une capacité d'initiative et finalement la liberté de décider en dernière analyse, un certain nombre de conseils qui l'aident à prendre des décisions, à mesurer les choses, à prendre la mesure du terrain, etc. Parmi ces conseils, il ne faut pas l'oublier, il y a le conseil épiscopal, qui sans doute n'est pas nécessité par le droit, mais les membres du conseil épiscopal sont nécessités par le droit.
Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi
Alors le conseil épiscopal, c'est le conseil qui est composé de ceux que l'évêque appelle à participer de manière directe à son gouvernement.
Donc il est plus restreint que le conseil presbytère.
Bien sûr, il est composé du vicaire général et il est composé des vicaires épiscopaux, qui, je le rappelle, selon le droit, participent ès qualité, par leur délégation donnée par l'évêque, sans doute, mais au gouvernement de l'évêque. Hein. Pour les affaires courantes, ils n'ont pas besoin de demander à l'évêque pour un décret d'application, par exemple, de telle ou telle loi générale de l'Église dans le territoire qu'il leur est confié. Pour toute chose plus extraordinaire, évidemment, ils n'ont pas la licence de prendre une décision. Voyez. Ensuite, il y a le conseil presbytéral. Le conseil presbytéral, il est la représentation de l'ensemble des prêtres qui exercent un ministère dans le diocèse. Ceux qui sont incardinés, parce qu'ils ont grandi, été formés dans le diocèse, et ils ont été inscrits dans le clergé diocésain, parce que c'est leur origine, si vous voulez, et leur première décision d'affectation. Ceux qui ne sont pas forcément incardinés dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, qui viennent de communautés religieuses ou autres, ou d'autres diocèses, selon une convention avec leur supérieur ou avec leur évêque, mais qui ont reçu un ministère de l'évêque dans ce diocèse. Tout ça constitue...
Ils ont été élus, en fait.
Alors, le conseil prélatéral est composé pour la plupart, le code de droit canonique précise, un petit peu plus de la moitié. Donc, mais il y en a beaucoup plus que la moitié, en fait. Pour la plupart, sont élus par leur père. Ça veut dire que nous avons établi des collèges électoraux. Les principaux collèges sont des collèges territoriaux. Ce sont les 11 doyennés. Et puis, il y a un collège de prêtres religieux, ou de religieux prêtres, comme vous voulez, un collège d'aumôniers de la santé, parce qu'il nous a semblé que la passion de la santé était vraiment transversale dans le diocèse, était une réalité très importante de la vie de l'Église, un collège qu'on a conservé du chapitre cathédral, ça c'est l'histoire, et enfin un collège de prêtres fidei donum, c'est-à-dire de prêtres qui viennent d'ailleurs par contrat avec leur évêque, non pas pour motif d'étude, comme certains prêtres qui viennent d'ailleurs, mais pour exercer un ministère pastoral dans les réalités de notre diocèse. Ce qui fait qu'il y a 15 prêtres qui sont élus au conseil presbytéral, hein, sachant que les membres de droit sont les vicaires généraux et vicaires épiscopaux, donc ça fait 6, et qu'ensuite il y a des prêtres nommés par l'évêque, normalement librement. Nous avons convenu dans les statuts qu'il y ait 4 prêtres qui sont nommés en fonction de leur office. Le DEMAF, c'est-à-dire le délégué épiscopal au mouvement et aux associations de fidèles. Un prêtre qui représente les prêtres retirés, qui est supérieur d'une des maisons de retraite sacerdotales de notre diocèse. Un prêtre de la pastorale des jeunes et le supérieur du séminaire. Voilà, les 4 membres qui sont nommés selon leur office. Donc ça fait 15 et 4, 19. Et enfin, j'ai nommé librement un autre prêtre qui représente une réalité du diocèse, même si elle est minoritaire, mais elle existe, hein, les fidèles qui sont attachés à la forme extraordinaire du rite romain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai nommé le chapelain de Pau qui s'occupe de cette communauté en très bonne intelligence d'ailleurs et fraternité avec les prêtres diocésains du centre-ville de Pau.
On le voit, c'est un conseil très divers qui représente la diversité des prêtres. Mais alors, pourquoi finalement ça n'a pas marché de réussir à vous dire les choses? Pourquoi est-ce qu'il y a dû y avoir un groupe qui s'est formé à part si ce conseil presbytéral, normalement, est là pour ça, justement?
Oui, c'est un grand mystère, d'autant plus que l'un des membres du bureau du conseil presbytéral sortant faisait partie des délégués de ce groupe et qu'à aucun moment, alors qu'il a participé à l'élaboration de tous les ordres du jour des conseils presbytéraux et qu'il a participé à l'animation de tous les débats, à aucun moment il n'a fait part personnellement à l'évêque ou dans le cadre de ce bureau du conseil de ses préoccupations. Donc c'est un mystère. Il y a quelquefois ces préoccupations ont été exprimées quand même au Conseil presbytéral. Il ne faut pas dire que ça n'a jamais été dit, qui a donné lieu à des débats, pas forcément houleux d'ailleurs. Hein. Peut-être quelquefois quand il y a une manière de le dire qui est parfois un peu agressive, ça peut susciter de ma part quelques blocages, c'est possible aussi. Hein. Mais ceci dit, pour moi, c'est quand même un petit mystère.
Alors, quelles sont, par exemple, les questions que vous abordez au sein du Conseil presbytéral?
Alors, toutes les questions qui concernent la vie et le ministère des prêtres, hein, c'est d'abord ça, mais qui sont quand même une cheville ouvrière de la pastorale dans un diocèse, donc qui concernent aussi toutes les orientations pastorales du diocèse. Donc nous avons abordé énormément de sujets. Nous avons abordé la pastorale sacramentelle, nous avons abordé aussi la communion entre prêtres. On avait commencé tout un travail de dialogue entre des prêtres différents, par des témoignages de prêtres extrêmement différents, de la corresponsabilité des prêtres et des laïcs, qui était l'objet de la dernière mandature du Conseil prélatéral, qui nous a fait inviter des mouvements de laïcs ou d'associations de fidèles, comme la Côté de l'Emmanuel, comme l'Action catholique indépendante, etc. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait et qui a permis de grandir. Aussi, c'est vrai qu'on était très occupés par l'élan missionnaire, cette orientation pastorale missionnaire que j'ai indiqué pas en la sortant de mon chapeau, selon l'enseignement et actuel du magistère de l'Église, hein, que nous avons largement évoqué, sur lequel nous avons débattu, avec des diversités, bien sûr. Ça c'est toujours passé, ça. Alors, si vous voulez, pour faciliter le travail de ce Conseil prélatéral, nous avons même, à la dernière session du mois de juin, donc 2016, du Conseil épiscopal, la session d'été, décidé d'activer deux commissions au sein du Conseil prélatéral. Une commission vie et ministère des prêtres, qui permettra en effet au Conseil prélatéral, par l'intermédiaire de cette commission, d'être plus attentif et plus sensible aux questions qui peuvent être posées par les prêtres et au suivi des mises en place d'améliorations ou autres dans ce domaine. Et puis une commission financière, de telle sorte que le Conseil prélatéral soit plus en phase avec le Conseil diocésain des affaires économiques pour la gestion financière du diocèse. Moi, je me félicite en tout cas de la composition de ce Conseil prélatéral qui est extrêmement diversifié. Je me félicite de l'élection du bureau du Conseil, du secrétaire général et des quatre membres du Conseil du bureau qui ont été élus démocratiquement selon les règles prévues par les statuts de notre Conseil prélatéral le 13 décembre, avec qui nous avons déjà commencé à travailler, qui est aussi assez diversifié et très représentatif de notre presbytérium. Et je me félicite aussi de ces deux commissions qui ont été composées à l'amiable par l'ensemble, en plébiscitant des gens qui se sentaient plus faits pour l'économie, d'autres plus faits pour les ministères des prêtres, pour que aussi cette commission soit assez variée, qu'il y ait un prêtre fidénum, qu'il y ait un prêtre plus âgé, qu'il y ait des prêtres de réalité, de sensibilité un peu différente. Je ne peux pas dire que ce ne soit pas une heureuse chose pour l'avenir proche de notre diocèse.
Un dernier mot, Monseigneur, avant de clore cette première partie d'émission, peut-être justement sur le conseil économique que vous avez évoqué, puisque c'est un des points d'achoppement aussi, c'est la situation financière du diocèse. Comment fonctionne ce conseil économique et est-ce que des mesures vont être prises pour redresser cette situation?
Mais des mesures sont déjà prises depuis longtemps pour essayer de redresser cette situation. Situation que nous ne cachons nullement, hein, qui est tout à fait transparente. Je crois que depuis quelques années, il n'y a jamais autant de transparence par rapport aux comptes, qui sont accessibles à tous. J'ai même élargi l'association diocésaine pour permettre à tous les curés, avec un membre par paroisse des conseils paroissiaux des affaires économiques, d'y participer de manière à pouvoir être en temps réel au fait et de pouvoir réagir ensuite, pas forcément au cours de l'Assemblée, mais après. Tous les documents sont donnés en temps et en heure, et la situation, elle est la situation qu'on trouve dans beaucoup de diocèses de France, et quasiment dans la plupart. Hein. Il y a un problème de masse salariale, ça c'est évident, qu'il faut davantage maîtriser. Il y a un problème de rationalisation du patrimoine immobilier des paroisses, avec beaucoup, beaucoup de bâtiments qui sont sous-employés. Et donc, c'est pas seulement la question de la curie, c'est la question de l'ensemble du diocèse. Il faut d'ailleurs pas séparer curie et paroisse parce que tout est lié. Les services diocésains qui sont à la charge de la curie diocésaine pour l'instant, un peu moins depuis qu'on a mis en place, après beaucoup de consultations, une contribution des paroisses à la vie du diocèse, sont au service des paroisses par définition et pas au service de la curie. Quand on parle de la baisse du denier, elle est endémique, elle est générale, hein. C'est un sujet d'inquiétude de tous les diocèses. Elle n'est pas catastrophique et elle s'explique en majeure partie par la disparition des donateurs traditionnels au bout de la chaîne qui vieillissent et qui meurent. La grande question qui est celle de tous les diocèses, et les diocèses de la province de Bordeaux sont en train de travailler justement ensemble pour essayer de trouver des solutions, c'est de rejoindre les plus jeunes générations. D'abord ceux qui ont entre 50 et 65 ans. C'est la première cible de conquête, entre guillemets, de nouveaux donateurs. Et puis c'est aussi de sensibiliser les plus jeunes, qui sont absolument pas sensibilisés à cette participation. Puis il faut pas se leurrer que le denier baisse, mais les quêtes paroissiales baissent. Et pourquoi? Parce que le nombre de pratiquants baisse. Il faut pas oublier que c'est aussi notre grande souffrance et notre grand défi. Le nombre de pratiquants réguliers baisse en permanence.
On n'aura pas eu le temps de parler du conseil pastoral diocésain. On en reparlera peut-être une autre fois.
C'est dommage parce que c'est très important. Et là aussi, j'ai une grande joie à réunir ces fidèles laïcs, hommes et femmes à parité, qui sont très représentatifs aussi à la fois de nos réalités de terrain, paroissiales, comme des services et des mouvements. Et c'est vrai qu'on a là un échange extrêmement riche, de très grande qualité. Pour l'instant, nous en sommes à des échanges pour apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Ils ont été très précieux pour analyser le malaise, puisque c'était juste après l'article de Sud-Ouest du 1er décembre que je les ai réunis. Et ça a été extrêmement riche pour moi, parce que ça m'a donné... Ça m'a aidé à me positionner par rapport à cette campagne médiatique. Et donc là, nous avons affaire à des fidèles laïcs qui ont une maturité, qui sont dans leur maturité de chrétiens, engagés, laïcs, ne sont pas des prêtres, ne sont pas des consacrés. Il y a d'ailleurs deux consacrés aussi, et un diacre permanent, et le secrétaire général du conseil presbytéral, et le vicaire général. Mais ceci dit, c'est extrêmement riche et très très riche de promesses.
Radio La Pourdie, Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marcaillé. Alors, Monseigneur Marcaillé, à la fête de l'Épiphanie, le 8 janvier, vous avez annoncé le jumelage de notre diocèse de Bayonne-Escaret au Laurent avec un diocèse d'Afrique. Quel est ce diocèse? Et je crois que vous y êtes déjà allé.
Alors, le diocèse de Kara au Togo, je pense que nos auditeurs se rappellent un certain nombre d'événements. En décembre 2015, donc il y a un petit peu plus d'un an, avec l'abbé Jean-Michel Barnetsch, qui est le responsable du service diocésain qu'on appelait autrefois la coopération missionnaire, mais s'appelle aujourd'hui de la mission universelle de l'Église, nous sommes allés à Kara, ce diocèse dont nous accueillons déjà depuis quelques années des prêtres étudiants. Après une rencontre que j'avais faite en 2011 à Cotonou, lors du voyage apostolique du pape Benoît XVI au Bénin, avec Mgr Jacques Longa, qui est l'évêque de ce diocèse, avec lequel nous avons tout de suite sympathisé. Oui, c'est la Providence. Et nous allions d'ailleurs en bus avec tous les autres évêques au stade de l'Amitié, où avait lieu cette rencontre avec le pape. Et donc, c'est sous le signe de l'amitié que ce projet de jumelage a pu naître.
Vous êtes vous-même né en Afrique.
Moi, je suis né en Afrique, donc j'ai toujours été très sensible à la coopération missionnaire avec l'Afrique. Et moi-même, comme prêtre curé de paroisse, j'avais établi un jumelage de ma paroisse avec une paroisse du diocèse de Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc vous voyez, c'est pas neuf. Et nous étions partis là-bas pour étudier la faisabilité d'un possible jumelage qui ne pouvait pas être, après avoir évidemment sondé le service d'incubation missionnaire, et qui ne pouvait pas être exclusif de tous les partenariats qui existent entre des communautés, des services et des mouvements du diocèse, avec bien d'autres réalités d'Afrique ou d'ailleurs. Et en revenant avec Jean-Michel Barnetsch, nous avons pensé que c'était intéressant de proposer ça au service de la coopération missionnaire. et de se mettre d'accord sur une petite stratégie. Nous avons dit qu'évidemment, il fallait que ce soit les deux évêques qui se mettent d'accord, ça partait d'eux, mais il fallait sensibiliser toutes les réalités de nos diocèses respectifs pour voir si la mayonnaise peut prendre. Vous voyez, donc c'est encore un projet, mais qui est balisé, si je puis dire, par une charte pour le jumelage que nous avons validée entre les deux évêques, après l'avoir préparée au service de coopération missionnaire du diocèse.
Donc la charte est consultable sur le site internet du diocèse. Concrètement, ça va consister en quoi ce jumelage, si on peut donner quelques axes?
Alors, je dirais que c'est tout à inventer. Et c'est là où nous lançons cette charte pour sensibiliser les réalités de notre diocèse, les fidèles, les paroisses, les mouvements, les services, à inventer éventuellement ou à sentir un appel, parce que c'est un appel la mission, un appel à établir un partenariat avec une réalité semblable dans le diocèse de Carra. Donc ça va commencer par supposer une information mutuelle entre diocèses, une communication de ce qui se vit dans notre diocèse et de ce qui se vit dans le diocèse de Carra, pour mieux appréhender les lieux possibles d'impact d'un partenariat qu'on appelle jumelage. Sachant que concrètement, nous avons déjà un peu amorcé les choses en envoyant quant à nous un séminariste, Alexandre Blodeau, qui accomplit actuellement son stage intercycle d'un an dans la paroisse du Christ Sauveur de Carra au Togo. Et nous avons accueilli un prêtre, cette fois pas seulement étudiant, mais Fidi Denoum, qui faisait partie d'ailleurs du collège des consulteurs, qui pour eux correspond au conseil épiscopal d'ailleurs, à Carra, et qui actuellement exerce un ministère dans l'équipe des prêtres, diacres et séminaristes, de la Trinité de Laurent à Oloron, Sainte-Marie.
Qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres, sachant que ce sont des réalités quand même très différentes en Afrique ou ici?
Alors c'est assez extraordinaire d'abord de se dire que un prêtre me disait récemment, il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait encore 15 prêtres du diocèse qui étaient fidèles de nous en Afrique. Aujourd'hui, on n'a plus de prêtres fidèles de nous. Le dernier, c'était Rémi Galvan, qui est revenu il y a 3-4 ans maintenant. Et nous avons à peu près 12 ou 13 prêtres d'Afrique qui nous donnent un coup de main dans le diocèse et qui, en même temps, profitent de notre expérience pastorale. Donc je crois que c'est un échange de biens spirituel et matériel, qu'il ne faut pas nier, et c'est un échange c'est une coopération missionnaire, c'est un échange d'initiatives missionnaires, puis c'est un échange de personnes, un échange entre des communautés. C'est pas une église qui va annoncer l'évangile, puisque l'évangile est déjà annoncé, que là où nous sommes allés annoncer l'évangile et constituer des communautés, eh bien ces communautés engendrent elles-mêmes maintenant leur propre vocation. Donc elles n'ont plus besoin de notre clergé missionnaire. Et ce sont deux églises sœurs qui échangent des expériences. Je dirais, nous, le poids de la tradition que nous leur apportons et de la durée. Eux, ils nous apportent l'élan et le souffle de la jeunesse d'une église qui est pleine de promesses et qui est en pleine expansion. Et donc je pense que ça ne peut que nous apporter les uns aux autres.
Nous aurons l'occasion, bien sûr, de suivre et de vivre ce jumelage dans nos différentes instances du diocèse. En Monseigneur, parlons un peu des nouveaux doyennés qui ont été mis en place récemment. Vous avez promulgué donc ces doyennés. Pourquoi cette nouvelle réorganisation territoriale dans le diocèse?
Il nous est apparu d'abord que le nombre de prêtres diminuant, certains doyennés se retrouvaient très pauvres finalement aux prêtres. Et que les réunions de doyennés se passaient à 3, 4, 5, 6. Certains, l'équipe paroissiale ou l'équipe des prêtres qui se retrouvaient tous les jours à table, constituait un doyenné. Donc on s'est dit, pour l'enrichissement des relations entre les prêtres, en vue de davantage fonder la communion fraternelle entre les prêtres et une communion qui soit missionnaire, donc qui n'est pas exempte de collaboration pastorale et missionnaire entre eux, eh bien, il nous est apparu qu'il était nécessaire à certains endroits d'élargir le territoire des doyennés. Voilà. Alors c'est sûr que la première chose qui a été visée, c'est de sortir les prêtres de l'isolement. et d'aider les prêtres à partager avec parfois des prêtres plus différents, parce que plus nombreux, et donc avec plus de différences d'âge, donc de génération, parfois d'approche pastorale. Et puis entre ces prêtres qui viennent d'ailleurs, qui sont au service de notre diocèse, généreusement, mais qui ne sont pas issus de ce diocèse, et ceux qui sont au contraire nés d'une culture de terroir, qui tend, comme vous le savez, à s'estomper aujourd'hui, dans les jeunes générations, c'est moins une culture de terroir, même au Pays Basque, et même au Béarn, c'est souvent plus des cultures de réseau, et parfois même de modes de pensée et de vie qui se transmettent à la terre entière, de manière très mondialiste, si vous voulez, hein. Eh bien, c'est une manière d'échanger davantage et pour que cette communion soit toujours plus missionnaire pour rejoindre, en effet, tous ceux que nous ne rejoignons plus, qui restent quand même notre grand cœur de cible.
Quel est le rôle d'un doyen ? Est-ce qu'il peut être justement membre du conseil presbytéral ou en général ?
Alors, généralement, nous faisons en sorte que le délégué du conseil presbytéral ne soit pas le doyen. Le doyen est nommé par l'évêque. Sur consultation sans doute, mais c'est une nomination qui appartient à l'évêque, d'après le droit canonique. Parce qu'il est celui qui va représenter l'évêque au milieu de ses confrères, sur ce territoire du doyenné, dans sa sollicitude vis-à-vis de ses confrères et dans la mission de favoriser la communion.
C'est pas le chef de tous les prêtres.
Alors, c'est pas un chef. Il n'est pas dans l'ordre du gouvernement, il est dans l'ordre de la communion fraternelle. Et ça n'empêche pas l'importance de son rôle, comme un archevêque métropolitain par rapport aux autres évêques de sa province. Voyez, comme le rappelait le cardinal Ricard avec amusement, il me dit « il croit que tu es que je suis ton supérieur hiérarchique », mais ce n'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, il le fait de manière admirable, c'est lui qui nous rassemble, les évêques de même province, pour échanger entre nous, partager fraternellement, nous pouvoir se soutenir les uns les autres dans nos difficultés de notre charge, et puis aussi trouver des moyens de collaboration pastorale. Mais c'est pareil pour le doyen. Voyez, il est représentant de l'évêque et de sa sollicitude pour la communion fraternelle des prêtres.
Et les laïcs, dans les doyennés, ils ont un rôle à jouer, bien sûr.
Bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer. Ils ont d'abord un rôle à jouer dans leur paroisse, et on a beaucoup insisté sur la co-responsabilité, mais il ne faut pas se tromper sur la co-responsabilité des prêtres et des laïcs. Quelquefois, on l'a compris d'une manière un peu, imiter des fonctionnements des sociétés ou des associations. La co-responsabilité des prêtres et laïcs, ce n'est pas d'être à parité dans telle ou telle tâche. C'est précisément être dans la complémentarité. Par exemple, quand un laïc est engagé dans sa famille à transmettre la foi à ses enfants et qu'un prêtre enseigne sa communauté paroissiale par la catéchèse ou la prédication, il y a une co-responsabilité de fait. Voyez, pas seulement parce que le laïc est catéchiste dans la paroisse. Voyez, c'est ça qu'il faut redécouvrir pleinement. Et je crois que le rôle des laïcs, il apparaîtra encore plus lorsque nous nous pencherons sur ce projet de pôle missionnaire, dont nous aurons l'occasion de parler une autre fois, sans doute, mais qui justement va essayer de souligner cette vraie co-responsabilité, cette vraie complémentarité des prêtres et des laïcs en vue de la mission d'annoncer l'évangile dans le monde et jusqu'aux périphéries.
On pourra en parler tout à l'heure. Un mot juste, Monseigneur Hayet, sur la nouvelle équipe de la pastorale des jeunes qui s'est renouvelée donc cette année. Est-ce que vous avez des orientations ? On sait que pour vous, c'est quelque chose de très important, la jeunesse. Cette année, comment ça va se passer pour nos jeunes ?
Alors, c'est sûr que l'équipe a été modifiée. Nous avons un petit groupe de 5 personnes, 3 prêtres et 2 laïcs, qui sont engagés sur le terrain de la pastorale des jeunes. Pour l'instant, ils vont chausser les chaussures de leurs devanciers et reprendre un peu les grandes lignes des grands rassemblements que nous faisons. Le but demeurant toujours de permettre à des jeunes extrêmement différents, d'âges très différents, de liens très différents aussi avec l'Église, participant ou non à des mouvements, membres de l'action catholique, de l'enseignement catholique ou de l'enseignement public, etc., etc., de rencontrer le Christ dans l'Église. Vous voyez, c'est exactement de rejoindre ces jeunes dans leur chemin, comme les mages qui sont guidés par l'étoile, qui cherchent des réponses importantes à leurs questionnements, à leurs interrogations existentielles, au sens de la vie, au sens de la vie sociale, de la vie du vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, et qui sont guidés par l'étoile vers un roi, un sauveur qui est censé leur donner des réponses. Ils entrent dans la maison, c'est-à-dire l'église, ils trouvent l'enfant, le nouveau-né, avec Marie, sa mère. Ben voilà, en gros, tout est dit là. C'est leur permettre, dans leur pèlerinage, dans leur quête de sens, dans leurs interrogations, auxquelles il faut être très attentif et très à l'écoute, eh bien, d'entrer dans la maison qu'est l'Église pour y rencontrer Jésus, à travers les sacrements, la parole, etc. Et repartir par un autre chemin.
Un mot sur les visites pastorales dans les paroisses, vous en êtes où ?
Alors, vous voyez, les visites pastorales, ce premier trimestre a été quand même assez parasité par pas mal de choses. Et donc, il me reste 4 paroisses à visiter. Je n'ai pas encore programmé, figurez-vous, il faut que je le fasse maintenant assez vite, les visites pastorales de ces 4 paroisses. Et je vais commencer parallèlement la visite pastorale des établissements catholiques d'enseignement. Donc, ça va être aussi un autre genre de visite pastorale.
Ça consiste en quoi, une visite pastorale d'établissement ?
Alors justement, on est en train de l'étudier avec le conseil de tutelle. C'est comme pour les paroisses une visitation du pasteur qui vient visiter une réalité importante de notre église ici, l'enseignement catholique, et que dans chaque établissement, il y a une communauté éducative avec un chef d'établissement, des enseignants, des personnels d'encadrement, il y a des élèves. Et donc, il faut que je rencontre cette communauté et que je les encourage dans la recherche de la finalité de l'enseignement catholique, qui est de permettre encore une fois à des élèves, à travers l'enseignement sans doute, mais de rencontrer le Christ et l'Église.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayet, nous terminons cette émission sur Radio Présence et Radio La Pourdie avec vous. Le 15 janvier, donc à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 10 janvier, la journée du migrant et du réfugié va être célébrée dans le monde entier. Alors, il y a plus d'un an, le pape avait appelé chaque paroisse et chaque communauté à accueillir des migrants. Comment est-ce que ça a été comment on a répondu à cet appel dans notre diocèse? Beaucoup de démarches ont eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce que nous avons fait pour les migrants et les réfugiés dans notre diocèse?
Alors, c'est sûr qu'il y a eu en effet des annonces. Il y a eu des quantités de mouvements, d'associations, de paroisses même qui se sont rendues disponibles. Je faisais le point hier avec le délégué de la délégation du Secours catholique, de l'ensemble de la délégation qui comprend les deux diocèses des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, qui me disait on est prêt, on est disposé, mais pour l'instant, on n'a pas reçu beaucoup de migrants. Il y a donc deux centres d'accueil qui ont été fondés plutôt dans le Béarn actuellement. Et donc, il y a des choses ponctuelles qui se font. Il y a des équipes pour apprendre le français aux gens qui arrivent, etc. Bon. Par contre, ce qui a été fait plus facilement pour l'instant, c'est l'accueil de réfugiés qui viennent d'Irak et de Syrie pour motif de persécution religieuse, comme on le sait. Donc nous accueillons depuis près de 2 ans pas mal de familles d'Irakiens, de Syriens. Actuellement, il y a tout un ensemble de familles qui arrivent à Urugne. On y a donc à l'initiative de la paroisse. Il y a une famille qui est à Guétari, il y a une famille qui est à Cambo, une à Asparin, à Pau. Alors il y a deux associations d'aide aux chrétiens d'Orient, plus particulièrement, qui se sont fondées à Pau et sur la côte basque, en lien aussi avec le Secours catholique et bien d'autres associations d'ailleurs, parce que l'importance de cet accueil des réfugiés et des migrants, ça permet de souligner, de fédérer les compétences de beaucoup d'associations qui œuvrent déjà dans leur coin. Donc je crois que c'est mieux de mettre ensemble les compétences, parce qu'on court toujours mieux à plusieurs que tout seul.
Donc c'est pas qu'une initiative privée, l'Église a vraiment un rôle à jouer,
bien
à
sûr,
communiquer
bien
sur
sûr,
ce
bien
sujet.
Sûr, tout à fait, très important. Le problème de l'immigration est un problème, comme nous le savons, qui est très sensible aujourd'hui en Europe et en France, et qui va certainement être aussi au centre des campagnes électorales diverses et variées qui vont occuper largement ce premier semestre de l'année 2017. Le pape y est revenu largement, hein, comme on le sait. Vous avez dans la revue diocésaine du mois de janvier des extraits nombreux de son message pour la journée du migrant. Et il est revenu hier devant, dans son discours ou dans ses vœux au corps diplomatique, hein, d'une manière très très mesurée d'ailleurs, hein, avec l'enseignement social de l'Église. Le pape dit que le droit d'émigrer est un droit fondamental qu'il faut respecter, et il faut toujours accueillir dans le respect de la dignité de la personne humaine, mais il appelle aussi à la prudence en rappelant que l'intégration des migrants dans les tissus sociaux, je le cite, où il s'insère, ne mette pas en péril la sécurité de ces tissus sociaux, leur identité culturelle, leurs équilibres sociopolitiques, qui pourraient être menacés par une mauvaise politique, au sens le plus noble du terme, de l'accueil des réfugiés et des migrants. Et il dit qu'il faut évidemment principalement accueillir ceux qui sont en danger, pour leur vie, pour leur équilibre familial, etc. Et il rappelle aussi que les migrants ont le devoir de respecter les lois, la culture et les traditions des pays dans lesquels ils sont accueillis, et que ça ne doit jamais porter atteinte au bien commun des citoyens, et que les gouvernements sont censés aborder cette question avec beaucoup de prudence pour l'équilibre même des sociétés qui les insèrent, tout en redisant qu'il est très important d'accueillir tout le monde et de les accueillir avec le respect absolu de leur dignité humaine.
Monseigneur Ayé, dans quelques jours, vous allez migrer vers le Mexique. Pourquoi ce voyage, ce pèlerinage à Notre-Dame de Guadalupe ?
Alors, c'est un pèlerinage pour lequel j'étais invité par un prêtre que vous connaissez, qui est venu dans le diocèse pour nous aider à nous préparer à la consécration du diocèse au Sacré-Cœur, Eucharistie et Marie, et qui accomplit un certain nombre de missions dans des pays d'Amérique latine, avec une pieuse laïque qui est salvadorienne, même si elle est établie dans la région parisienne, des missions de consécration, de diffusion de la consécration au Sacré-Cœur. Voilà. Alors, il m'invitait depuis un certain temps à faire ce voyage. Moi, je traînais un peu je traînais les pieds, et finalement ils ont emporté mon adhésion. Donc je vais en profiter pour faire un pèlerinage à Notre-Dame de Guadalupe, et aussi rencontrer donc des communautés, de visitandines, des paroisses qui au Mexique, au Salvador, et sont sensibilisées par cette consécration au Sacré-Cœur. Et je vais en profiter pour visiter un frère de communauté qui est nonce apostolique au Guatemala, voilà. Donc, qui est maintenant très très loin. Et donc, puisque je ne serai pas loin, j'en profite pour le voir. Ce voyage, le répète, étant complètement à ma charge et non pas à la charge du diocèse.
Alors, Monseigneur Ayé, on vous a vu dans la presse locale au mois de novembre aux côtés du maire, plutôt du, je ne sais pas si c'est le prince de la principauté de Lasse. Vous l'avez présenté, je crois, au pape François.
Oui, comme vous savez, le maire de Lasse, qui s'appelle Jacques Pedeonta, est un homme plein d'initiatives et d'idées, et qui a eu l'idée depuis quelque temps, depuis quelques mois, d'inviter le pape François à découvrir, à travers le village de Lasse, qui est devenu une principauté, au sens administratif, culturel du terme, et pas au sens fiscal, bien entendu, découvrir le monde rural. Parce qu'il avait entendu que le pape avait dit « Moi, je veux pas seulement aller voir des grandes villes, des grands sanctuaires, mais je veux découvrir la ruralité. » Bon, alors, il s'est dit « C'est une niche dans laquelle je peux me faufiler. » Et il a d'abord écrit au pape de sa propre initiative. Et un jour, il m'a dit « J'aimerais bien aller présenter ça au pape. » Il a eu des réponses des assesseurs du Saint-Père. Hein. Et donc, je lui ai obtenu une prima fila, comme on dit, une première ligne, à l'audience du 30 novembre à Rome. Et donc, je l'ai présenté au pape et il lui a présenté son projet. Et le pape a été très, très, très attentif, comme toujours avec tous, d'ailleurs, et très amusé, même parce qu'il avait dans son pressbook, il avait présenté la photo de mariage des parents du pape. Il lui a parlé beaucoup des Béarnais qui étaient partis en Argentine, dont sa propre cousine, qui est présidente des Béarnais d'Argentine. Et donc il s'est dit que je serais heureux de vous les faire rencontrer. Voilà. Alors le pape a été très, très attentif.
Est-ce que c'est une manière de nous annoncer que le pape va venir dans notre diocèse en Béarn ?
Finalement, c'est la proximité de Lourdes qui lui a mis la puce à l'oreille. Il s'est dit, si le pape vient à Lourdes, eh ben, il n'aura pas loin à aller jusqu'à Las.
Monseigneur Ayet, nous allons bientôt terminer cette émission. On va peut-être revenir sur vos vœux pour cette année. Vous avez évoqué tout à l'heure les nouveaux pôles missionnaires. On sait que c'est quelque chose d'important pour vous, cette église en mission. Comment ça fonctionne concrètement, ces pôles missionnaires, sachant qu'il y en a déjà un premier en Soule?
Alors, d'abord, c'est pour rappeler, comme je l'ai dit aux prêtres au jour des vœux.
À Saint-Palais, pas en Soule.
À Saint-Palais, pardon.
Oui. J'ai rappelé, en effet, au cours des vœux, que notre cœur de cible, que nous ne devions pas oublier, et j'espère bien que 2017 ne sera plus parasité par ce malaise que nous allons prendre à bras-le-corps, c'est une Église toujours recentrée sur le Christ, en sortie missionnaire. On entend bien ces expressions qui nous sont rappelées en boucle par le pape François dans ses interventions sur la mission de l'Église. Les pôles missionnaires ne fonctionnent pas encore. Nous avons une feuille de route en vue d'établir des pôles missionnaires, qui va être précisément discuté, qui pourrait même être amendé dans les différents conseils du diocèse. Nous avons seulement lancé ce projet sur le terrain parce qu'il y avait une opportunité qui se présentait autour de Saint-Palais, voilà, qui nous aidera à travers l'expérience de terrain à la réflexion et à l'affinement de ce projet des pôles missionnaires. L'idée, si vous voulez, c'est de faire en sorte que des paroisses où le prêtre n'est plus résident, ce qui devient de plus en plus important aujourd'hui parce qu'on a moins de prêtres, seront rattachées à un pôle d'attraction et de rayonnement, donc un centre humain et religieux de vie, et confiées à une petite équipe de prêtres qui, avec des laïcs, qui assureront des équipes d'animation paroissiale, en particulier dans les paroisses où le prêtre n'est plus résident, eh bien, ne se recentreront pas seulement sur le fonctionnement, mais verront comment ce pôle deviendra à la fois un cœur spirituel, un poumon spirituel et un cerveau missionnaire pour aller à la rencontre de ceux qui ne sont plus dans nos assemblées, peuplent nos villages et nos territoires, et trouver des initiatives missionnaires pour rejoindre ce monde-là.
Est-ce que c'est l'avenir, finalement, ces pôles missionnaires? Est-ce que derrière ça, c'est pour pallier le manque de prêtres, ou est-ce que c'est une véritable volonté de mission où chacun a sa place?
C'est vrai que dans un premier temps, ça peut pallier le manque de prêtres, mais pas seulement le manque de prêtres, le manque de laïcs pour assurer la relève de ceux qui aujourd'hui, plus qu'à leur heure et plus qu'à leur tour, sont généreusement engagés dans l'animation de communautés. Vous voyez, c'est une conversion pastorale qui est en jeu. C'est une nouvelle manière de c'est pas tant le manque de prêtres que la déchristianisation de nos territoires qui est en jeu. Vous voyez, c'est une nouvelle manière d'être présents, prêtres et laïcs, ensemble, au territoire, et surtout aux hommes et aux femmes qui habitent ces territoires, qui nous sont confiés. Voilà. C'est la fameuse conversion pastorale missionnaire à laquelle le pape François nous appelle dans son exhortation « La joie de l'Évangile ».
Merci beaucoup, Monseigneur Marc Ayet, de nous avoir consacré cette émission en ce début d'année 2017. Merci à Violaine Ricourt-Dumas et merci à tous les auditeurs de Radio Présence et de Radio Lapourdie. Merci à tous et bonne année.
Shema Israël. Audi Israël, écoute Israël, Ensun Israël, escute Israël.
Monseigneur Marc Ayet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.